Vous écoutez RTL.
Posez toutes vos questions à l'invité de RTL Matin en appelant le 3210.
8h21, nous allons donner la parole aux auditeurs d'RTL. Merci beaucoup d'être resté avec nous, Muriel Pénicaud. Je fais quand même l'injonction avec votre dernière réponse à Elisabeth Martichoux, qui elle-même citait Jean-Claude Mailly, qui était notre invité hier. Vous nous avez dit on ne touchera pas aux indemnités de chômage des salariés. Et pour les nouveaux chômeurs, est-ce que ça bouge ?
Non, ça ne bouge pas parce que les partenaires sociaux ont signé récemment un accord qui fixe la durée d'indemnisation du chômage et nous n'allons pas le modifier.
On va tout de suite donner la parole à Florent qui nous appelle de La Rochelle. Bonjour Florent, la ministre du Travail vous écoute.
Oui, bonjour à vous, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Je me permettais donc de vous appeler, de vous interroger sur les faits de tout ce qui est partie formation. Qu'est-ce que vous allez faire pour que nos personnes que l'on va avoir dans nos entreprises soient capables de lire un plan, de pouvoir lire déjà tout court, et puis surtout de pouvoir être professionnel. Parce qu'aujourd'hui, on a des formations, que ce soit apprenti par le biais de Pôle emploi ou par le biais de d'autres organismes de formation. Aujourd'hui, on a énormément de mal à recruter du monde, que ça soit en petite main ou en main d'œuvre qualifiée. Moi-même, je suis plâtrier, plaquiste et staffeur, et je vous garantis que tous les jours, je me lève et je me pose la question, et de un, si je vais avoir des gens qui vont, mes gars qui vont venir à l'entreprise, et puis de deux, quel type de gars j'ai besoin d'avoir, moi, du personnel compétent. Et
Florent,
aujourd'hui, j'ai personne pour mettre au bout.
Je vous interromps parce que cette question est très intéressante, elle est carrée. Vous évoquiez tout à l'heure le problème de la formation professionnelle dans notre pays. Muriel Pénicaud vous répond.
D'abord, monsieur, moi, je partage votre sentiment. Aujourd'hui, on voit la croissance repart, il y a des marchés, et tous les jours, je rencontre des entrepreneurs comme vous qui disent, mais je ne trouve pas les personnes qu'il me faut, qui ont les qualifications.
Et c'est incompréhensible pour tous les Français qui nous écoutent.
Oui, mais comme on a eu un chômage de masse de jeunes et des moins jeunes pendant longtemps, aujourd'hui, il y a beaucoup de qualifications qui manquent. C'est vrai dans le domaine du bâtiment que vous évoquez, c'est dans le domaine de la métallurgie, mais aussi dans les services aux personnes. Il y a des domaines entiers où il faut qu'on réinvestisse fortement sur l'apprentissage. Alors, c'est les apprentissages techniques, c'est aussi les apprentissages de base, comme vous l'évoquez. C'est aussi l'apprentissage à comment on travaille, les codes de la vie en entreprise.
Mais oui.
Tout ça compte. Et donc, dans le grand plan d'investissement pour les compétences, on va former 1 million de jeunes, 1 million de demandeurs d'emploi, rapidement et évidemment en fonction des besoins, parce que ces demandeurs d'emploi, ces jeunes, ils veulent un emploi. Et les entreprises ont besoin de ces compétences, de ces qualifications. Mais je suis d'accord avec vous, il y a une certaine urgence, car là, on a des opportunités, mais il faut pouvoir les saisir et il faut pour ça avoir des personnes qualifiées. Et c'est là-dessus qu'on va s'investir avec les entreprises, avec les partenaires sociaux et avec l'appareil de formation très vite.
Florent, ma question va peut-être vous paraître incongrue, mais vous-même, en une semaine, en 15 jours, vous ne formez pas un jeune en lui expliquant le boulot et qu'est-ce que c'est que d'être plaquiste ?
Non, pas du
pas
tout.
En 15
pas
jours.
Du tout. Pas du tout, certainement pas en 4 jours. Et puis certainement moins en 2 ans. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, nous, ça fait 10 ans qu'on forme des apprentis et on prend des jeunes en insertion via le service militaire adapté, via Pôle emploi, via la pas. Aujourd'hui, un plaquiste, c'est du minimum 6 mois de formation, minimum.
Oui.
Sauf que quand vous avez des gens qui arrivent comme ça et de un, ne savent déjà même pas, quasiment pas lire ou pas écrire, et quand on se retrouve avec des gens où on veut avoir de la main-d'œuvre qualifiée, on veut les former, mais ils ne savent déjà même pas lire un plan, quoi que ce soit.
C'est pour ça que les savoirs de base...
Des jeunes qui ne sont pas employables, c'est exactement ça.
Oui, mais sauf qu'on ne peut pas, je pense, dire que... Enfin, on est tous aussi parents et citoyens, on ne peut pas se résigner à ce plus d'un million de jeunes soient nulle part, ni en formation d'emploi, qu'ils estiment qu'ils n'ont pas de perspective. Donc oui, vous avez raison, pour certains jeunes, il faut repartir sur les savoirs de base, c'est ce qu'on va faire aussi. Pour d'autres, on peut aller directement vers la qualification des métiers tels le vôtre.
Merci beaucoup Florent. Maintenant c'est Marie qui vous interroge, Muriel Pénicaud. Elle nous appelle du département de l'Aube. Bonjour Marie, nous vous écoutons.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour.
Moi, j'ai une petite question.
Marie, on vous entend très mal. Excusez-moi, on va essayer de régler ce problème de téléphone et de ligne. Et on va donner la parole à Alain. Mais je vous promets qu'on vous récupère tout de suite après si on arrive à améliorer la liaison. Bonjour Alain, merci d'écouter RTL.
Oui,
la ministre du Travail vous écoute. Ah, voilà une belle voix que l'on comprend.
Bonjour Madame Pénicaud.
Bonjour.
Madame Pénicaud, je me permets d'attirer votre attention sur un volet de la loi Travail qui est la fusion entre les différentes instances représentatifs des salariés, j'entends par là le comité d'entreprise, les délégués du personnel et les membres du CHSCT, dont je fais partie dans le CHSCT, dans mon entreprise, qui compte plus de 100 salariés et moins de 200, puisque nous sommes une entreprise de transport routier, transport de marchandises, basée dans Lyon, à Moneto. Quand vous dites de fusionner, de ne faire qu'un comité social et économique, c'est comme ça que je l'ai vu, notre crainte, nous en avons parlé, est de voir diluer, si vous me permettez l'expression, les prérogatives de chacun et peut-être le risque d'être beaucoup moins vigilant. Je m'explique, le CHSCT, vous le savez, Madame la Ministre, a en particulier traité avec le dirigeant des règles de sécurité, mais aussi des risques psychosociaux, qui aujourd'hui, au regard des pressions qui sont mises pour qu'une entreprise puisse tenir la route, sont de plus en plus importantes. Ma crainte, Madame la Ministre, c'est de voir la vigilance des délégués, du personnel, des membres du CHSCT être atteinte par cette fusion. Comment pensez-vous, Madame, organiser ce nouveau comité social et économique et au moins y mettre le nombre de personnes qui sont indispensables pour la bonne gestion de ces tâches.
Muriel Pénicaud vous répond, Alain.
Oui, d'abord, monsieur, je crois qu'on partage le même objectif, c'est d'améliorer les conditions de travail et la santé et la sécurité au travail. Je rappelle qu'aujourd'hui, on a, malgré des comités, des préventeurs, etc., on a, l'année dernière, eu 600 000 accidents du travail en France, et ce qui est extrêmement grave, il y a eu 514 décès liés à des accidents du travail.
Vous nous dites quoi, donc, le filet de sécurité n'était pas aussi efficace que ça ?
Oui, parce que et d'autres pays, y arrivent mieux. Donc on ne peut pas se résigner, et je pense que c'est le sens de votre intervention, on est d'accord là-dessus. Alors, justement, dans d'autres pays, en général, le fait qu'il y ait un seul comité, ça permet de faire plus de prévention. Pourquoi ? Vous évoquez les risques psychosociaux. Il y a beaucoup de risques psychosociaux qui sont liés à l'organisation du temps de travail, la manière, les relations hiérarchiques, les modes de décision. Et donc le fait de pouvoir en décider dans le même comité, en discuter dans le même comité, peut faire de la prévention. Et je pense que sur la santé au travail, de façon générale, c'est pour ça que j'ai confié avec ma collègue Agnès Buzyn une mission récemment à un syndicaliste, une parlementaire et un chef d'entreprise, il faut qu'on progresse et qu'on progresse plus sur la prévention. L'employeur a toujours cette obligation de prévention. Ça ne change pas. Et le nouveau comité social et économique a toutes les prérogatives du CHSCT. Mais je pense qu'il faut ensemble qu'on réfléchisse. C'est pas le comité ou pas qui va changer la situation. C'est qu'est-ce qu'on fait pour vraiment progresser sur la santé au travail, sur les conditions de travail et aussi sur la prévention des risques psychosociaux, comme vous l'évoquez.
On marque une pause. On se retrouve dans quelques instants avec vos appels au 3210. Vous continuez d'interroger la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui est avec nous. À tout de suite. Très bonne journée. À l'écoute d'RTL.
Posez toutes vos questions à l'invité de RTL Matin en appelant le 3210.
Merci d'écouter RTL et d'interroger le ministre du Travail qui est avec nous aujourd'hui. Marie, nous vous avons retrouvé. On va parler indemnité de licenciement avec vous.
Oui, c'est ça.
Muriel Pénicaud vous écoute.
Bonjour. Donc moi, je suis juriste dans une association, donc je reçois quotidiennement des salariés. Et j'aurais voulu savoir, à l'heure où on prône la non-discrimination et l'égalité entre tous, pourquoi en termes d'indemnité de licenciement entre les salariés de TPE et les salariés des autres entreprises, on va faire des différences en termes d'indemnité.
Et est-ce que c'est bien le cas ?
Oui, c'est pas le cas. Alors, pour ce qui concerne les indemnités légales, qui sont fixées par la loi, que nous avons augmenté de 20% pour les 10 premières années d'ancienneté, qui continuent à augmenter de façon dégressive après, le changement, c'est qu'elles augmentent de 25%. Et en ce qui concerne les contentieux, je pense que c'est à ça que vous faites allusion. Lorsque un salarié va au prud'homme, ou l'entreprise d'ailleurs, mais pour un contentieux, il n'y a pas de différence. Les plafonds seront les mêmes. Donc le juge pourra apprécier la situation dans un cadre avec plancher et plafond. Mais il n'y a pas de distinction, si ce n'est le plancher. Mais avant, il n'y avait pas de plancher pour les petites entreprises. Maintenant, il y en a un.
On a répondu à votre question, Marie.
Oui, j'ai du mal à comprendre le projet de loi, alors en le lisant.
Alors, ce que nous l'avons encore mal expliqué, on a encore du travail à faire.
D'où l'intérêt du dialogue. On va donner tout de suite. Merci de nous avoir appelés. On va tout de suite donner la parole à Jacques, qui lui nous appelle du département du Jura. Bonjour, Jacques. La ministre vous écoute.
Bonjour, Yves Calvi. Bonjour, madame la ministre.
Bonjour, monsieur.
Je me permets de vous appeler concernant le monde du handicap. Je suis moi-même handicapé. Et je m'aperçois qu'au niveau de mes collègues handicapés, il est très très difficile de s'insérer dans le monde du travail. D'ailleurs, je crois qu'au niveau des chiffres du chômage, les personnes handicapées sont beaucoup plus touchées que les autres.
C'est le cas.
Il y a vraiment très très peu de solutions pour les employeurs, en particulier sur les petites entreprises dont je fais partie. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un employeur suite à mon accident qui m'a gardé dans l'effectif, et je l'en remercie, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de mes collègues qui ont été licenciés suite à des graves accidents. Comment pouvez-vous améliorer l'emploi au niveau des personnes handicapées? Et franchement, Madame la Ministre, faites vraiment un effort, parce qu'il y a vraiment des situations de détresse au niveau du monde du handicap, car on parle très très peu d'eux. Et si un jour vous avez besoin d'un conseiller, appelez-moi, j'ai des bonnes solutions pour vous, mais il faut être handicapé pour donner des bonnes solutions.
Muriel Pénicaud.
Alors vous avez raison, 30 ans après l'obligation d'embaucher des travailleurs handicapés dans les entreprises, on est aujourd'hui qu'à 3,2%. En gros 3% de travailleurs handicapés dans les entreprises, alors que c'est à peu près 7% de la population. Oui. Et par ailleurs, vous avez raison aussi, il y a 500 000 travailleurs handicapés qui sont au chômage, et c'est le taux de chômage est double lorsqu'on est handicapé. Donc c'est absolument insatisfaisant, et je dirais c'est un sujet d'équité sociale, mais je pense aussi que c'est une perte de compétences pour les entreprises, parce que les travailleurs handicapés ont beaucoup à apporter, et avec ma collègue Sophie Cluzel, on est en train de travailler sur un projet là-dessus. On regarde, d'ailleurs, toutes les idées sont les bienvenues. On regarde comment on peut déplacer ce plafond de verre, car aujourd'hui, ça ne bouge pas beaucoup. Ça augmente un petit peu, mais pas assez rapidement. Et je pense que vous avez raison, ça va être une de nos priorités, l'action. On a une opportunité. C'est qu'aujourd'hui...
On leur fait beaucoup de promesses aux handicapés.
Oui, je sais, j'ai vu dans le passé. Mais il y a une opportunité, c'est que comme l'emploi repart, je reprends la question d'un auditeur précédent, l'emploi repart, on cherche des qualifications partout. Donc on va aussi, dans le grand plan d'investissement en compétences, dans l'apprentissage, mettre une place aux handicapés. Il faut savoir qu'il n'y a que 1% des apprentis qui sont des jeunes handicapés. Donc on cumule, évidemment, si on cumule et qu'on n'a pas de qualification, on ne trouve pas d'emploi.
Bien sûr.
Donc il faut aussi investir sur la qualification.
Hervé, bonjour. Vous nous appelez du département de l'Hérault et je remercie Jacques pour son appel. Hervé ?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Monsieur.
Madame la ministre, mais Yves Cavi, je voudrais simplement vous poser une question. Qu'est-ce que compte faire le gouvernement par rapport aux chômeurs vieux, entre guillemets, dans le sens qu'ils sont considérés par seniors mais qui n'arrivent pas à trouver du travail, parce qu'en fin de compte, on les considère comme trop vieux. Moi, j'ai 55 ans. J'ai été pris pour un poste pour lequel j'avais truandé sur mon âge, j'avais dit que j'avais 45 ans, et quand j'ai donné mon âge, on m'a pas pris. Donc je voulais savoir ce qu'on peut faire pour les vieux.
Alors, on a en France une spécificité du chômage, c'est que là où il y a le plus de chômage, c'est effectivement soit les jeunes, soit les 10 seniors qui... On se dit senior très jeune, alors qu'en fait on vit de plus en plus longtemps. Donc il y a une espèce
Merci
de paradoxe.
Voilà, oui,
le mien aussi. Alors ceci dit, il y a des entreprises qui commencent à changer. L'autre jour, j'étais dans une agence Pôle Emploi où inversement les entreprises avaient demandé mais est-ce qu'on peut avoir des seniors parce qu'on a besoin de gens matures. Donc il commence à y avoir un déclic en disant que l'expérience et la maturité c'est aussi utile aussi. Alors ceci dit,
si je peux me permettre, ça nous dit pas comment on les fait revenir au travail, si je puis dire, ou comment on les aide pour en retrouver.
Je vais vous dire, c'est que dans les seniors, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui ont un métier, mais le métier a changé.
Oui.
Et je reviens toujours à mon obsession de la meilleure protection contre le chômage, c'est quand même la compétence par rapport au métier d'aujourd'hui et de demain. Donc il y a des personnes, c'est pas parce qu'on a 50 ans qu'on peut pas repartir en formation et apprendre un autre métier. Je pense qu'il faut arrêter cette idée que on ne peut apprendre qu'à 20 ans. Non, toute la vie, on apprend. Donc pour pouvoir cibler des emplois. Aujourd'hui, on a, et la deuxième chose, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup d'emplois vacants aujourd'hui, avec la croissance et la reprise. Et donc il y a des employeurs aussi qui commencent à changer d'état d'esprit, c'est le moment à saisir. Et donc c'est pour ça que j'ai demandé à Pôle emploi, notamment sur les seniors, d'avoir un travail particulier sur ce sujet, dans le sens que vous évoquez. Alors, ce n'est pas la solution miracle pour tout le monde, mais je pense qu'on peut arriver quand même à faire baisser le taux de chômage des seniors.
On va prendre une dernière question, mais vous constaterez qu'on a ouvert, en fait, cette série de questions. C'est un concours de circonstances, hein, mais avec des jeunes inemployables et un chef d'entreprise qui nous dit comment je fais pour trouver des plaquistes demain. Et on se retrouve en fin d'interview avec quelqu'un qui nous dit, voilà, j'ai 55 ans et je n'arrive pas à retourner, à retrouver du boulot. On va prendre une toute dernière question, si vous le voulez bien, Muriel Pénicaud. C'était sur Facebook Live. C'est Amélie qui vous disait, Madame la Ministre, quelle solution proposez-vous aux employés rendus précaires par vos ordonnances, c'est donc quelqu'un qui estime être précarisé, comment pourront-ils accéder au crédit, ne serait-ce que pour acheter une voiture? Voilà.
Alors,
vous savez que c'était une grande inquiétude et que c'était un angle d'attaque de l'opposition, bien entendu, qui depuis le début dit en fait que dénonce une régression sociale avec ces ordonnances.
Alors, il n'y a absolument aucune mesure dans les ordonnances qui va dans le sens de la précarisation. Évidemment, notre but, c'est l'inverse. Aujourd'hui, il y a 85% de contrats à durée indéterminée en France et 15% d'emplois précaires. Et nous pensons que ce taux est un peu élevé. Bien sûr, il y a une flexibilité, il y a une évolution du marché, mais aujourd'hui, il y a trop de gens précaires. Et je vais prendre même, si vous me permettez, madame, un contre-pied, c'est qu'on a mis dans les ordonnances un certain nombre de choses pour encourager cette lutte contre la précarité. D'abord, on va responsabiliser les partenaires sociaux, c'est-à-dire les employeurs et les syndicats au niveau des branches. On leur a donné une nouvelle compétence sur la gestion et la qualité de l'emploi, où ils pourront eux-mêmes adapter les règles à tel secteur d'activité sur l'emploi précaire. D'autre part, dans il y a une partie de gens qui sont aujourd'hui en emploi précaire dans des secteurs où il y a des contrats, il y a des entreprises qui ont des projets sur 3, 4, 5 ans, mais on n'embauche que des CDD et l'intérim. Et vous savez, et vous avez raison, quand on a un CDD, c'est très difficile de trouver un logement ou de faire un emprunt. Et ça depuis toujours. En créant les contrats de chantier sous le contrôle des partenaires sociaux, hein, dans les branches où syndicats et patronats se mettent d'accord, ça va permettre à des intérimaires et des CDD eux d'avoir des contrats qui s'appelleront contrats à durée indéterminée et donc de pouvoir emprunter ou de pouvoir être autonome et se stabiliser dans la vie.
J'ai bien compris que vous affirmez en fait que ces ordonnances vont au contraire, selon vous, renforcer la protection des salariés.
Oui, en donnant plus de pouvoir, plus de grain à moudre, comme on dit, au dialogue social à tous les niveaux, dans la branche et l'entreprise. Je fais confiance aux partenaires sociaux pour aller dans ce sens-là.
Merci Muriel Pénicaud d'être venue dialoguer ce matin sur l'antenne d'RTL avec nos auditeurs. Excellente journée à vous.
Merci.
On a compris que vous ne manquez pas de travail.